Radio Kapi.
Le nouveau plus sénateur de la RDC ont tourné définitivement l'ère Ntambwe Mwamba. C'est à l'issue des élections qui se sont déroulées hier à la Chambre haute du Parlement, dirigée désormais par Modeste Bahati Lukwebo. Ce bureau compte 7 membres, dont 3 femmes. La force syndicale nationale Focinet Nord Kivu s'oppose à l'application de la circulaire du ministère provincial de l'EPST, circulaire qui demande aux écoles secondaires publiques de restituer 31% des frais de fonctionnement perçus. Focinet crie déjà au détournement. L'invité Aristide Ongone, représentant de la FAO en RDC, à l'occasion de la journée mondiale de la sauvegarde de la faune, y fait le bilan des projets appuyés par la FAO et l'Union européenne sur la gestion durable de la faune en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonjour. Le bureau définitif du Sénat affiche désormais complet. C'est à l'issue des élections qui se sont déroulées hier mardi à la Chambre haute du Parlement, dirigée désormais par Modeste Bahati Lukwebo. Ce bureau compte 7 membres, dont 3 femmes. Si pour le nouveau président, c'est un bureau exceptionnel, certains sénateurs, tout en saluant cet événement autant exceptionnel en RDC, se disent hâte de voir ce bureau à l'œuvre car trop de défis les attendent. Jacques-Yves Molima, reportage.
Les 98 sénateurs dans la salle ont tourné définitivement l'ère Ntambwe Mwamba. Pour les sénateurs Guérin Bonvené, candidat déchu au poste de deuxième vice-président, mais l'initiateur de cette pétition qui a fait couler les bureaux précédents, toute la joie est à lui.
Moi je pense que toute la joie est la mienne. J'ai initié une initiative qui a abouti à un résultat. Ce qu'il faut compter, c'est l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier.
Une joie qui ouvre la voie aux attentes. Fidel Tingombay.
Plein succès à ce bureau parce que on a vu tous les mouvements que nous avons connus pendant 2 ans. Tant que parlementaire, je me suis rendu compte que le Parlement n'a pas fonctionné. Il y a beaucoup de réformes qui sont attendues. Nous souhaitons en ce que tout se fasse le plus vite que possible pour nous permettre d'être à jour par rapport aux échéances électorales qui nous attendent.
Et pour son premier mot au perchoir, Modeste Bahati Lukwebo salue la présence des femmes dans son bureau en ce mois de la femme avant de clore cette session extraordinaire.
Votre nouveau bureau définitif, un bureau exceptionnel qui comprend en son sein 3 dames. L'ordre du jour de cette session extraordinaire est visé. Sur ce, je déclare close la session extraordinaire de février.
Depuis le Palais du Peuple, Jacques-Yves Molima, Aouta, Radio Kapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que le général Likul Yabakoumi a été nommé auditeur général des FARDC en remplacement du général Moukounto décédé il y a quelques semaines en Afrique du Sud. L'ordonnance de sa nomination a été lue hier mardi sur les antennes de la RTNC. Dans une précédente ordonnance, Likul Yabakoumi René a été promu en grade de lieutenant général des FARDC. Avant cette nomination, il était premier avocat général des forces armées et officier du ministère public près la haute cour militaire. Justice toujours, la cour militaire de l'ex-Kassai occidental autorise la comparution de la journaliste de RFI Sonia Rollet comme renseignant dans le procès des présumés meurtriers des experts de l'ONU au Kassai. C'était au cours de l'audience d'hier mardi que le ministère public a demandé cette comparution, faisant savoir que la journaliste pourrait éclairer la cour militaire sur ce qu'elle sait au sujet de ce meurtre. Explication de Joël Bofengo.
Nous sollicitons la comparution de Sonia Rollet, lance le ministère public, rappelant que la journaliste de RFI avait réalisé beaucoup de reportages relatifs au meurtre des Aïda Catalan et Michael Sharp, les deux experts de l'ONU tués en 2017 au Kassai. Le général Mouaou ajoute que la journaliste a également discuté avec Jean Bosco Mukanda, l'une des personnes accusées d'avoir participé au meurtre de deux experts. Sonia Rollet a fait beaucoup de reportages sur ce meurtre. Elle a parlé avec Jean Bosco Mukanda. Au lieu de dire des choses en dehors du prétoire, qu'elle vienne le dire ici, argumente le général Mouaou, avant d'ajouter, ne pas vérifier ce que Sonia Rollet dit, on dira que la justice militaire a évité d'affronter la vérité. La cour accède à la demande du ministère public. Le président des CA déclare que la cour se fait le devoir d'inviter la journaliste afin qu'elle puisse aider l'humanité en mettant à la disposition de la justice congolaise des éléments dont elle aurait des preuves. En plus de Sonia Rollet, le ministère public obtient l'autorisation de la cour pour la comparution du pasteur Charles Boniface, qui dirige une radio de Kananga, ainsi que celle de Gabriel Ilunga. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Kapi.
Et dans l'actualité, sachez aussi que la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, est arrivée hier à Kinshasa pour prendre ses fonctions à la tête de la MONUSCO. Elle a été accueillie à l'aéroport de Ndjili par son adjoint en charge des affaires humanitaires, David Maclaclan Carr. Nommé à ce poste le jeudi 14 janvier dernier, la Guinéenne Bintou Keïta remplace l'Algérienne Leïla Zerougui. Madame Keïta apporte à ce poste plus de 30 ans d'expérience, notamment dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement et des droits de l'homme. Depuis janvier 2019, elle assumait les fonctions de sous-secrétaire général pour l'Afrique dans les départements des affaires politiques et de consolidation de la paix et des opérations de paix. Elle avait aussi été sous-secrétaire général aux opérations de maintien de la paix de novembre 2017 à décembre 2018. Direction le Nord Kivu. La force syndicale nationale Fosinat, section provinciale, s'oppose à l'application de la circulaire du ministère de l'EPST. Cette organisation syndicale l'a dit aux médias hier, après une assemblée générale extraordinaire de ses membres, assemblée tenue le week-end dernier à Goma. Il était question d'analyser l'impact de cette circulaire qui fixe la clé de répartition concernant les frais de fonctionnement dans les écoles secondaires, selon l'arrêté du gouverneur de province. Dans une correspondance adressée au gouverneur du Nord Kivu samedi dernier, la Fosinat crie déjà au détournement. D'autres détails avec Denise Lukeso.
La circulaire du ministère du 21 décembre dernier demande aux écoles secondaires publiques de restituer 31% des frais de fonctionnement perçus, dont 6% pour les bureaux gestionnaires et 26% pour une caisse de solidarité avec les enseignants des écoles primaires publiques. Considérant que cette circulaire est de nature à créer un dysfonctionnement du système éducatif au Nord Kivu, la Fosinat s'y oppose purement et simplement à sa mise en application. Elle demande au chef d'établissement de ne pas libérer cette quote-part avant qu'une solution ne soit trouvée. Chamavu Bala, président provincial de Fosinat.
Réellement, c'est un détournement organisé au sein de l'EPST Nord Kivu. Au stade actuel, nos camarades enseignants de l'école primaire n'ont jamais reçu même un 100 francs de ces frais-là. Alors c'est là où nous sommes en train de dire, c'est un détournement. Nous demandons à toutes les autorités au niveau national comme au niveau provincial d'arrêter la mise en pratique de cette circulaire.
La Fosinat Nord Kivu demande au ministère de laisser chaque gestionnaire pour gérer son école comme ça a toujours été depuis le début de l'année. Un délai de 2 semaines d'observation est accordé aux autorités provinciales. Autrement, les enseignants menacent d'aller en grève. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
Du côté de Kananga, un groupe des chefs d'établissement de l'EPST œuvrant dans la 52e communauté des églises évangéliques luthériennes du Congo dénonce la vente des faux documents en rapport avec leur métier. Dans un mémorandum dont une copie est parvenue à notre rédaction, ils appellent la justice à mettre la main sur l'ancien coordonnateur de ces écoles qu'ils accusent comme auteur de ces actes. Le responsable de la 52e communauté confirme avoir déjà saisi la justice. Des précisions avec André Kambala.
Dans ce document adressé au gouverneur de province ad intérim, les signataires confirment que l'ancien coordinateur Jean-Pierre Ntumbachika a vendu des numéros matricules SECOP à 50 000 francs congolais la pièce par agent. Il a aussi vendu des arrêtés ministériels à 100 000 francs congolais par école et pour obtenir une commission d'affectation, il exigeait par agent la somme de 100 000 francs congolais plus une chèvre. Face à ce qu'il qualifie d'extorsion d'argent, ce chef d'établissement invite la justice à mettre la main sur l'auteur de cette escroquerie et aux autorités de prendre des mesures pour mettre fin à cette situation. Ils invitent également les services techniques de SECOP à mécaniser les 85 écoles que compte la 52e CELCO en province. Contactez le responsable de la 52e communauté des églises évangéliques luthériennes, confirme l'information. L'évêque François Mbumba indique avoir déjà saisi le procureur général près la cour d'appel du Kasaï central pour poursuivre Jean-Pierre Ntumbachika. Et il appelle la population à la prudence pour ne pas, d'après lui, se faire duper par le conseil. De Kananga, André Kambala Mujanaï, Radio Kapi.
En plus bref, sachez aussi que la RDC a réceptionné hier soir à l'aéroport international de Ndjili de Kinshasa 1,7 million de doses de vaccins de COVID-19 à travers le mécanisme COVAX. La cérémonie de réception a eu lieu sur le tarmac de l'aéroport de Ndjili en présence des deux ministres, celui de la Santé et son homologue porte-parole du gouvernement de la RDC et la directrice du programme élargi de vaccination PEV. Entre-temps, à Bandunduville, la police nationale congolaise organise depuis le lundi 1er mars une campagne de sensibilisation au port obligatoire et correct des masques de protection. Cette campagne est menée dans tous les points chauds de la ville où on intercepte tous les passants qui n'ont pas de masque. Le général Kanold Kamana, commissaire provincial de la PNC Kwilu, indique que cette campagne rentre dans le cadre d'avertissement, après quoi viendra le temps de sanctionner, car selon lui, il y a un relâchement des gestes barrières par la population. Plus de détails avec Irène Mboma dans ce reportage.
Mégaphone à la main, les éléments de la police nationale congolaise du Kwilu ont érigé des barrières sur plusieurs artères principales de la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. Ils sensibilisent la population au port obligatoire et correct des masques de protection. Les cas des avenues Wamba, Lumumba et Kwango, où plusieurs passants ont été retournés faute de masques, et d'autres par contre les ont reçus gratuitement des services de santé. Pour la police, elle entend par cette sensibilisation des masques avertir sur les mesures d'accompagnement édictées par les autorités pour lutter contre la propagation des coronavirus avant de passer aux sanctions. Cela après avoir constaté un relâchement total des gestes barrières contre la COVID-19 par les habitants de la ville de Bandundu. Le général Kanold Kamana, commissaire provincial de la police nationale congolaise du Kwilu.
Nous avons repris une sensibilisation parce que nous avons compris qu'il y a eu un relâchement. Nous sommes en train de sensibiliser. Et après la semaine de sensibilisation, nous passerons à une semaine où nous pourrons réprimer ceux qui... les récidivistes qui ne veulent pas porter le masque. Le message que je peux adresser à la population est que la population doit se prendre en charge en respectant les mesures barrières.
Notez que cette sensibilisation d'une semaine qui a débuté lundi 1er mars va jusqu'au lundi 8 mars prochain. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, le ACR relocalise des milliers de réfugiés centrafricains vers des lieux plus sûrs et éloignés des régions frontalières, reculées et instables en RDC. Dans un communiqué, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés affirme qu'il construit ensemble avec la Commission nationale pour les réfugiés un site d'une capacité d'accueil de 10 000 réfugiés à Modale, un village situé près de Yakoma dans la province du Nord Ubangi. Un second site est actuellement envisagé près de Ndou dans la province du Bazoué, en attente de l'approbation du gouvernement. Des travaux sont en cours pour identifier deux sites supplémentaires où un plus grand nombre de réfugiés pourront être transférés. Selon les autorités de la RDC, 92 000 réfugiés sont déjà arrivés depuis la République centrafricaine après l'éruption des violences liées aux élections en décembre 2020. La plupart des réfugiés centrafricains vivent actuellement le long des rivières, dans des régions frontalières difficiles d'accès au sein des communautés d'accueil disposant des ressources limitées, leurs conditions de vie sont désastreuses, indique la même source. Retour au Nord Kivu. Il sera lancé au courant de ce mois de mars les opérations de patrouille conjointe RDC-Ouganda sur les lacs Édouard et Albert. C'est l'initiative du projet LIF2, projet de gestion intégrée des pêcheries et des ressources en eau des lacs Édouard et Albert. Cette organisation l'a annoncé à l'issue d'un atelier du lancement de la phase de sensibilisation hier à Goma. Bernardin Nyangi signe ce reportage.
La première phase des patrouilles conjointes marins ougandais et congolais sur le lac Édouard et Albert devrait être lancée au courant de ce mois de mars, dit le coordonnateur national de LIF2. L'objectif, selon lui, est de promouvoir la conservation des écosystèmes des deux lacs et résoudre les conflits de gestion transfrontalière de leurs ressources. Joseph Matungulu.
L'objectif, il s'inscrit dans le cadre de la mise en application de l'accord sur la gestion durable des ressources halieutiques et agricoles signé le 20 octobre 2018 à Munyonyo, à Kampala, entre l'Ouganda et la RDC. Le problème est connu, c'est qu'il y a baisse de la production, essentiellement dans la partie congolaise, beaucoup d'atrocités contre les pêcheurs au niveau interne et au niveau transfrontalier. Et parmi les activités de la gestion commune figurent des patrouilles conjointes.
Les deux premières semaines du mois de mars devraient être consacrées à la sensibilisation pour l'implémentation de ce projet. Rappelons que les autorités provinciales et nationales du service de pêche, celles du parc national de Virunga, les représentants des pêcheurs du lac Édouard et l'armée ont participé à cet atelier de lancement du projet lundi à Goma. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Nigeria. Libération hier des jeunes filles qui avaient été capturées vendredi dernier dans leur pensionnat de Djangebe dans l'état de Zamfara. Elles sont au nombre de 279 selon les autorités locales qui parlaient au début de 317 captives. Le gouverneur local Bello Matawalé a reçu les ex-otages en grande pompe et salué leur libération dans un discours officiel. Mais une fois de plus, on ne sait rien des conditions de leur libération.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Aristide Ongone Obame, représentant de la FAO en RDC. À l'occasion de la Journée mondiale de la sauvegarde de la faune, il fait le bilan des projets appuyés par la FAO et l'Union européenne sur la gestion durable de la faune en République démocratique du Congo. Aussi, il profite de cette célébration pour lancer un message de sensibilisation des populations à l'importance de la sauvegarde de la faune. Aristide Ongone s'entretient avec J.R. Lungembo.
Monsieur le représentant de la FAO, bonjour.
Oui, bonjour.
Le monde célèbre ce mercredi la journée internationale de la sauvegarde de la faune. Quelle est la situation de la faune en République démocratique du Congo aujourd'hui?
Ok, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer pour cette journée mondiale. Effectivement, la forêt, à travers la faune, nourrit l'être humain, nourrit la communauté. On estime qu'un chasseur va consommer environ 10% des produits de sa chasse et vendra les 90% restants. Donc, vous voyez deux aspects qui apparaissent. L'aspect de consommation directe, ce qui assure la sécurité alimentaire des gens, et l'aspect commercialisation de la viande rouge, qui est un élément essentiel pour les ressources de la famille. Et la demande est tellement forte que nous prélevons plus qu'il n'en faut. Et si nous continuons de cette manière, il y a des espèces aujourd'hui qui sont déjà en danger. Donc, la faune en RDC est en grand danger.
Un projet CIPA 2, financé par la FAO et l'Union européenne sur la gestion durable de la faune en République démocratique du Congo sont mis en œuvre. Alors, parlez-nous brièvement de ces projets et de leur intérêt pour les populations.
Alors, le projet, nous mettons en œuvre un certain nombre de projets. Quel est l'objectif de ce projet? L'objectif de ce projet, c'est d'un côté, effectivement, la sécurité alimentaire des populations, et de l'autre côté, l'environnement, la protection de l'environnement. Diminuer la pression des populations environnantes sur les ressources du parc.
Alors, quel bilan faites-vous à mi-parcours de ces projets?
Alors, le projet de la Salonga, disons dans le Sankuru, est pratiquement à la fin. On est en train de le clôturer. Nous avons un autre qui se met en œuvre dans l'Ituri, du côté de la faune à Okapi, en Ituri, qui est encore en cours. Alors, celui du Sankuru est pratiquement à la fin. Si je dois faire le bilan est largement positif. Parce que quand on arrivait dans la zone, il n'y avait pas d'alternative. Où on prélevait dans le parc, on se laissait envahir par l'extrême pauvreté et la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Alors, aujourd'hui, nous avons pu créer des alternatives. Dans toutes ces activités, ont permis de créer un environnement propice à une meilleure gestion des prélèvements dans le parc.
Alors, que prévoit le projet pour la sauvegarde des espèces rares, non seulement en Ituri, mais à travers le pays?
Oui, effectivement, le problème ne se pose pas qu'en Ituri. Le problème se pose un peu partout en RDC. Comment fait-on pour préserver les espèces rares? Pas seulement les espèces rares. Il faut aujourd'hui comprendre. Et il n'est pas aisé de prendre des décisions. On interdit ceci, on interdit cela. Mais encore faut-il que ces décisions aient des effets à long terme. Et pour que l'effet soit vraiment durable et à long terme, il faut non seulement sensibiliser, comprendre la problématique pour la population à aller prélever en dehors des aspects. Parce qu'il y a des espèces qui ont peut-être déjà parlé. D'autres qui sont sur le point de l'être. Mettons en place des alternatives pour créer d'autres centres d'intérêt et de protection comme les éco-gardes. Voilà un peu toutes les choses que nous devons faire, mettre en place, mais ça ne doit pas se limiter au Sankuru ou au niveau de toute l'AIA.
Alors, à l'occasion de cette célébration, quel est le message que vous adressez aux uns et aux autres?
Alors, avec cette opportunité, je voudrais profiter vraiment de cette journée de sensibilité pour souligner que les 12 derniers mois peuvent être considérés comme très très douloureuses pour nous. Alors, la demande croissante de viande de brousse, c'est un sujet préoccupant, en particulier dans les zones urbaines, où cette demande augmente, ça donne une pression de chasse dans les forêts, mais aussi l'exposition des humains aux maladies. La viande d'animaux sauvages est une source alimentaire. Nous le savons, pour des millions de personnes, que ce soit des personnes autochtones ou pas, mais si la chasse n'est pas pratiquée de manière durable, et si la demande urbaine de viande sauvage n'est pas réduite, à la FAO, nous savons que la production alimentaire doit coexister avec la conservation de la biodiversité. Donc nous préconisons des systèmes alimentaires respectueux de la biodiversité qui nourrissent l'humanité tout en équilibrant la conservation et l'utilisation durable des ressources. Et enfin, la FAO encourage une transition des niveaux non durables à des niveaux durables de chasse pour la viande sauvage par le biais de politiques et des possibilités de génération de revenus nouvelles et inclusives, dire le meilleur par à la fois des connaissances traditionnelles et des technologies les plus récentes. Voilà en gros un message que je souhaitais lancer à l'occasion de cette...
Monsieur le représentant de la FAO, merci d'avoir bien voulu nous accorder cette interview.
C'est moi qui vous remercie.
Le représentant de la FAO en RDC, Aristide Ongone, répondait aux questions de J.R. Lungembo Lwabung Andji. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.